Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Jésus est en train de traverser Jéricho et c'est là qu'il rencontre Zachée. Or, chers frères et sœurs, ce passage par Jéricho, ville dite des palmiers, ville commerciale à l'époque encore assez importante, n'est pas dû au hasard. La traversée de cette ville fait partie du chemin de Jésus, du chemin voulu par Jésus. C'est comme si Jésus, avant d'entreprendre sa dernière montée vers Jérusalem, la ville sainte, avant d'entrer dans cet accomplissement des Écritures que d'ailleurs il vient d'annoncer aux apôtres juste à l'approche de Jéricho pour la troisième fois, c'est comme si Jésus avait voulu d'abord non pas monter, mais descendre. Descendre afin d'aller, un peu à la manière d'un pèlerin, vers ces lieux où, il y a de longs siècles, le peuple libéré de l'esclave de l'Égypte, le peuple élu sous la conduite de Josué, avait traversé le Jourdain et commencé son entrée dans la terre promise. C'est comme si le Christ, celui sur lequel l'Esprit s'était posé depuis son baptême dans les eaux du Jourdain, désirait revenir à l'endroit où avait commencé la lente, la patiente conquête de la terre par excellence. Cette terre où, non plus en images et figures prophétiques, mais en réalité, à travers sa propre personne, allait s'accomplir le désir, la volonté, la joie du Père. D'ailleurs, un rayon de cette joie, Jésus, juste devant les portes de Jéricho, vient de le mettre dans les yeux et le cœur d'un pauvre aveugle auquel il a rendu la vue, remplissant par la même occasion d'enthousiasme la foule qui l'entoure, cette foule qui à présent l'accompagne à travers Jéricho, en célébrant les louanges de Dieu. Et pourtant, dans quelques instants déjà, cette même foule, Saint-Luc dit avec une certaine insistance, tous, cette foule, pour le moment encore si enthousiaste, se mettra à récriminer, à murmurer contre Jésus. Pourquoi ce changement si abrupt? À cause d'une chose horrible. À cause de quelque chose de complètement incompréhensible aux yeux de tout juif pieux de l'époque. Qu'a donc fait Jésus? Et voilà la réponse de la foule ébranlée et choquée. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Or, ce pécheur, c'est Zachée qui, planté sur un arbre à cause de sa petitesse, veut voir Jésus. C'est ce Zachée qui, aux yeux de tous ses concitoyens, est un personnage exécrable. Un exclu, un excommunié à jamais, car pourrait-on être autre chose qu'un excommunié si l'on collabore avec l'occupant romain, si l'on collabore pour se remplir les poches? À vrai dire, Zachée n'est pas un pécheur ordinaire. Il est non seulement collecteur d'impôts au nom des Romains, il est le publicain en chef, le chef de ceux qui, d'après les témoins de l'époque, parmi lesquels le philosophe Cicéron, lui-même romain, savent comment obtenir, avec toute la brutalité nécessaire, des gens les sommes nécessaires pour satisfaire les Romains. Comment donc le Messie de Dieu pourrait-il s'abaisser au point de demander l'hospitalité à l'un des pires oppresseurs? Sachez, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Frères et sœurs, ne touchons-nous pas ici la raison profonde de la descente de Jésus vers Jéricho? Sa venue dans les régions frontalières de la terre qui appartient à Dieu? Car n'est-il pas venu chercher et sauver ce qui était perdu? Sauver celui qui s'était éloigné le plus de la maison du Père? La brebis isolée dans les branchages, incapable d'en sortir par elle-même, la brebis prisonnière de ses propres convoitises. Le cœur du Fils de Dieu ne brûlait-il pas du désir d'aller jusqu'aux frontières les plus lointaines pour ramener à la communion avec le Père celui qui s'en était éloigné le plus? Et ne découvrons-nous pas ici exactement son miracle le plus grand, son dernier miracle qu'il accomplit sur terre et qui indique le sens profond de tout son chemin vers la montagne sainte de son élévation? Cependant, en révélant l'intention miséricordieuse de son cœur, cette intention qui dépasse toute logique humaine, Jésus ne devait-il pas aller encore un pas plus loin? Ne devait-il pas se mettre aussi à rechercher encore une autre brebis? À savoir cette autre, à vrai dire bien plus discrète, cette autre brebis qui s'enferme dans ses propres appréciations. Cette brebis qui se cache si soigneusement, peut-être en chacun de nous. Cette brebis si prompte à s'estimer plus digne, plus méritant que telle autre. La brebis si vite déroutée quand le pasteur s'incline avec affection sur la brebis la plus blessée, la plus délaissée. Chers frères et sœurs, avec affliction, je dois vous l'avouer, et ce n'est pas à ma gloire, que de fois je dois redécouvrir en moi cette pauvre bête, cette brebis indocile, ou si vous préférez, ce fils aîné mécontent et ce petit pharisien qui doit encore et encore réapprendre que les miséricordes du Père sont infinies, illimitées, et qu'elles ne dépendent ni de ses mérites, ni de ses qualités, ni de ses prouesses. N'est-ce pas cette grande intuition que le sage de l'Ancien Testament désirait nous faire saisir lorsqu'il disait dans la première lecture « Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. » Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Je vous entends répliquer, et qu'en est-il de la justice ? Or, chers frères et sœurs, tous les deux, le pharisien et le publicain, le fils aîné et le fils cadet, la brebis restée dans l'enclos et la brebis égarée, tous les deux, que nous soyons publicains ou pharisiens, justes ou injustes, nous devons consentir à la miséricorde du Seigneur. Voilà ce qui nous unira. Et j'ajoute, essayons de ne pas l'oublier. Si Dieu est vraiment Dieu, sa miséricorde n'a pas de limite. Aucun péché ne saurait être plus grand que la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qu'aujourd'hui le Christ nous révèle en allant vers le plus éloigné du peuple de Dieu, non seulement en appelant à lui Zachée, mais en mendiant avec une immense joie son hospitalité. Voilà le mystère abyssal de la miséricorde divine. Voilà la cause, la source de toute conversion, de toute guérison, de toute fraternité, la source inépuisable de toute vie en Église.